Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis ici pour parler de la problématique du voyage vers les étoiles. Donc, irons-nous un jour visiter les étoiles? En fait, la question, c'est, nous avons déjà visité notre planète, nous avons même été jusqu'à voir la Lune. Il semble évident, enfin intéressant au moins de se pencher sur le problème, de savoir si nous allons un jour visiter les étoiles et comment aller visiter ces étoiles, comment organiser ce voyage, comment qui pourrait partir, quelles sont les problématiques qui se poseront aux gens qui vont organiser ce voyage ou qui vont vivre ce voyage, à bord de quel vaisseau, comment vont-ils pouvoir aller là-bas. Donc, pour discuter de cela, nous avons avec nous Carole Ecoffet, qui est chercheur en physico-chimie, qui est aussi présidente d'une petite association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, et qui parle de la culture scientifique et de la science dans les sociétés. Nous avons Roland Lehoucq, qui est astrophysicien au CEA, qui fait de la vulgarisation scientifique, et qui, si je ne me trompe, est aussi chroniqueur à Bifrost.
Oui, je suis aussi chroniqueur à Bifrost.
Et nous avons avec nous, nous avons l'honneur d'avoir Peter Watts avec nous, qui est écrivain de science-fiction canadien, qui est aussi biologiste marin, qui a été plusieurs fois nominé sur différents prix et qui a reçu le Hugo en 2010 pour la meilleure nouvelle. C'est cela? Oui.
Yeah.
That's not a letter, actually.
Oui, c'était un roman.
Les étoiles, qu'est-ce que nous en savons? Parce que nous les voyons dans le ciel tous les jours, mais les scientifiques ont quand même regardé d'un peu plus près, ont travaillé sur ces étoiles. Et donc je vais me tourner vers M. Lehoucq d'abord. Un petit peu, les étoiles, qu'est-ce que nous en savons? Elles sont loin, mais...
Oui, alors elles sont. C'est-à-dire que, évidemment, quand on regarde le ciel la nuit, on voit du noir et des petits points brillants. Les petits points brillants sont des soleils, sont les étoiles. Le soleil est une étoile et les étoiles sont des soleils. Et l'effet, leur distance est tellement grande qu'on a l'impression qu'elles sont en réalité toutes à la même distance, toutes à la surface d'une sphère qui s'appelle la sphère céleste. Et une grande question de l'astronomie qui n'a été finalement résolue qu'en 1830 par un physicien, par un astronome mathématicien qui s'appelle Bessel, c'est quelle est la distance des étoiles. Et la première fois qu'on a mesuré la distance des étoiles, en 1830, c'était l'étoile 61 du Cygne, on a trouvé une distance considérable. Plusieurs années-lumière dans les unités modernes, l'année-lumière étant la distance parcourue par la lumière en un an, 31 millions de secondes, un an, et la lumière parcourt 300 000 km par seconde. Donc une année-lumière, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et la distance des étoiles se chiffre en années-lumière. Donc quelques années-lumière, l'étoile la plus proche, qui n'était pas 61 du Cygne, que Bessel a mesuré la première fois donc dans les années 1830, l'étoile la plus proche, qui est Proxima du Centaure, 4 années-lumière, un peu plus de 4 années-lumière. Donc la distance de cette étoile est tellement grande que la lumière qui nous en vient met un peu plus de 4 ans pour venir. On peut comparer ça à la distance de la Lune, par exemple, qui est à peu près 1,5 seconde-lumière, un peu moins, une seconde-lumière, on va dire, pour faire simple. Le Soleil, c'est 500 secondes-lumière. La lumière du Soleil met 500 secondes pour nous parvenir. La lumière de Pluton, l'astre qui n'est plus une planète maintenant, enfin qui est plus catégorisé dans la catégorie des, qui est plus dans la catégorie des planètes, mais je dis Pluton parce que c'est longtemps considéré comme les frontières, disons, du système solaire, 5 heures-lumière. L'étoile la plus proche, 4 ans, un peu plus de 4 ans-lumière. Voilà, ça donne tout de suite une idée des distances. Les distances entre étoiles se chiffrent des centaines de milliers de fois plus grandes que la distance entre la Terre et le Soleil.
Alors, les étoiles, on arrive à les voir, on arrive à mesurer la distance, on arrive même à les reconnaître, à les différencier, mais qu'en est-il des planètes autour de ces étoiles? Parce qu'en fait, aller vers une étoile, envoyer un vaisseau vers une étoile a peu d'intérêt s'il n'y a pas de planète autour.
Oui, c'est vrai que quand on pense étoile, on pense en général ce qui tourne autour d'une étoile, en tout cas de notre étoile, maintenant on sait depuis tout le temps qu'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil. Évidemment, les premiers modèles étaient plutôt géocentriques, c'était plutôt le Soleil et les planètes qui tournaient autour de la Terre. Enfin, il y a un groupe d'objets Soleil, planètes du système solaire, et on a imaginé, disons, se fondant sur l'identité entre le Soleil et les étoiles, l'identité formelle entre le Soleil et les étoiles, on a imaginé que les étoiles avaient aussi des planètes qui tournaient autour, et on a la preuve de l'existence des exoplanètes que depuis une quinzaine d'années, depuis l'année 1995, on a pour la première fois détecté une exoplanète autour, donc une planète autour d'une autre étoile, autour d'étoile en l'occurrence 51 de la constellation de Pégase. Maintenant, on a détecté directement à peu près 500 exoplanètes, et c'est un nombre qui augmente régulièrement de plusieurs unités, une dizaine d'exoplanètes chaque mois. Hein. Donc on a vraiment une régularité de découverte d'exoplanètes, les moyens de détection ayant fait des progrès considérables, à la fois dans leur qualité et dans leur quantité, on découvre un grand nombre d'exoplanètes régulièrement. Donc maintenant, aller vers une autre étoile, ce n'est pas juste aller vers l'étoile, bien sûr, c'est souvent éventuellement aller vers les planètes qui sont autour de ces étoiles, et dont maintenant on a la preuve directe de l'existence.
Alors, ceci dit, une planète, ça peut ressembler à beaucoup de choses. On a déjà un certain nombre d'exemples dans notre système solaire de planètes. Il n'y en a qu'une seule qui est réellement habitable. Et donc, je me pose un peu la question, quels sont les prérequis pour qu'une planète puisse être habitable, puisse accueillir les humains et la biologie ?
Je ne sais pas si on se limite peut-être un petit peu en parlant de les surfaces planétaires. Certaines personnes disent que, dans la communauté astrophysique, je crois, qu'il y aurait de la vie sur les comètes. Et est-ce que l'orateur pourrait rapprocher le micro de sa bouche, s'il vous plaît ? Il y a beaucoup d'autres climats sur les autres planètes, pensons, et le prérequis, c'est que vous avez besoin de quelque chose qui pourrait concentrer tous les précurseurs de la vie dans une proximité assez proche, bien sûr, pour générer des interactions complexes chimiques. Ici, sur Terre, on pense que il s'agit d'une espèce d'argile catalyseur, finalement, qui ça commencerait par une espèce de soupe primitive, une espèce de boue. Si c'est ce qu'on cherche, il n'y a pas de raison à se limiter à la surface des planètes. L'univers est rempli d'organismes moléculaires basés sur des acides aminés. La question, c'est de les rassembler, encore une fois, dans une proximité suffisante pour qu'ils entrent en interaction et qu'ils commencent à générer des comportements de répétition qu'on voit ici sur Terre. Mais il faut bien sûr une atmosphère propice à ce genre de phénomène. Tout ça ne peut pas se produire dans le vide. Mais sur certaines comètes, effectivement, il y a des gaz, il y a des poches de liquide aussi. Donc c'est quelque chose qui pourrait soutenir des réactions chimiques. Mais quand on... La planète Terre n'est pas forcément très adapté non plus. Il y a une question de taille, une question de gravité. Vous pourriez être écrasé par un rocher. Beaucoup de lois de la physique semblent fonctionner à l'encontre de la vie, finalement. Et beaucoup de scientifiques pourraient vous dire que logiquement, la vie sur Terre, normalement, n'aurait pas pu forcément se développer. Mais bon, gardons un esprit ouvert par rapport à cela.
Un problème là qui va se poser, c'est qu'il faut envoyer quelque chose. Il faut envoyer un vaisseau, on va envoyer des gens, et là se pose le problème du temps. On parlait tout à l'heure de la distance que l'on mesure en années-lumière. Donc effectivement, on mesure bien la distance, d'une certaine manière, en temps.
Absolument, on mesure les distances en temps. Ça, c'est la façon dont les physiciens ont de mesurer les distances, tout simplement parce que les progrès de physique atomique ont permis de construire des références de temps, les horloges atomiques, qui ont une précision absolument incroyable. Autrement dit, une horloge atomique moderne, elle dévie d'une seconde tous les 300 millions d'années à peu près. Ce qui veut dire qu'on peut mesurer les temps avec une très grande précision. Et donc, en 1983, la nouvelle définition du mètre est fondée sur une mesure de temps. C'est la distance, le mètre, c'est la distance parcourue par la lumière en une fraction 1 sur 299 792 458e Donc un 300 millionième, on va dire tout simplement, un 300 millionième de seconde. Donc on mesure les distances en temps parce que les références de temps sont extraordinairement plus précises grâce à la physique atomique que les références de distance. Donc ensuite, l'année-lumière est une unité adaptée aux distances entre les étoiles. Alors en réalité, la distance des astronomes n'est pas l'année-lumière. La distance des astronomes, c'est le parsec, parce que les astronomes mesurent les distances entre étoiles par triangulation, comme on le ferait sur Terre, en mesurant dans un triangle où il y a la Terre à un endroit, la Terre 6 mois plus tard, et puis l'étoile très lointaine. Dans ce grand triangle, on mesure 2 angles, on en déduit le troisième, qu'on appelle la parallaxe, et cette parallaxe se mesure en une fraction d'angle extrêmement petite, qui est généralement inférieure à la seconde d'arc. Parallaxe seconde, ça veut dire parsec, c'est le diminutif de parallaxe seconde, et l'étoile la plus proche est un peu plus lointaine que 1 parsec. La taille de notre galaxie, c'est 30 000 parsecs, et la distance de la galaxie la plus proche, la galaxie d'Andromède, c'est 700 000 parsecs. Donc toutes ces distances sont exprimées plutôt en parsecs si on est astronome, plutôt en année-lumière si on est physicien. Bon, l'année-lumière, elle est aussi utilisée par l'astronome, évidemment.
Mais donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas spécialement ça, c'est combien de temps est-ce qu'il faudrait pour envoyer un vaisseau?
Ah oui, alors combien de temps? Si vous êtes de la lumière, 4 ans. Pour aller à Proxima du Centaure, il vous faut 4 ans si vous êtes de la lumière. Alors l'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas de la lumière, vous êtes de la matière. Alors si vous êtes de la matière, vous allez forcément plus lentement que la vitesse de la lumière. Les seuls objets qui peuvent aller à la vitesse de la lumière, ce sont les objets des particules de masse nulle, le photon, la lumière. Les neutrinos, qui ont une masse non nulle en réalité, mais qui ont une masse extrêmement faible, donc ils vont presque à la vitesse de la lumière. Et tous les autres vont moins vite que la vitesse de la lumière. Donc si vous allez à seulement 10% de la vitesse de la lumière, vous mettez 40 ans. Allez. Si vous allez à 1% de la vitesse de la lumière, vous mettez 400 ans pour aller à l'étoile la plus proche. Sachant que les vaisseaux les plus rapides que l'humanité était capable de construire vont à 30 km par seconde en utilisant leur propulsion chimique, en utilisant l'assistance gravitationnelle de Jupiter ou des planètes géantes du système solaire. Ils ont été à 30 km par seconde. La lumière, c'est 300 000 km par seconde. Entre 30 et 300 000, il y a un facteur 10 000. Ça veut dire que si ce vaisseau était dirigé vers Proxima à 30 km par seconde, il lui faudrait 40 000 ans pour l'atteindre. Voilà, tout est dans le terme 40 000 ans. Hein, les sondes actuelles les plus péchues qu'on a su faire, et encore, hein, c'était 30 km par seconde quand elles sont passées au voisinage de Jupiter. Hein, les sondes Voyageur 1, Voyageur 2, les sondes Pioneer américaines, Pioneer 10 et 11, elles ont plutôt une vitesse d'une dizaine de kilomètres par seconde. Donc c'est pas 40 000 ans qu'il leur faut, c'est 120 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Voilà, tout est dans ce nombre-là. La vitesse qu'on atteint, c'est absolument minable.
D'accord, donc si l'on résume, c'est bien supérieur à la durée de vie d'un humain.
Ah oui, sans problème, et même d'un robot, hein, c'est-à-dire qu'on sait pas, on n'est pas sûr d'être capable de faire fonctionner une machine ou que la machine fonctionne pendant même 400 ans. Hein, dans les sondes actuelles, un des problèmes qui se pose parfois, c'est que la durée de vie de l'électronique de bord, de la mécanique de bord, des instruments de bord, n'est parfois pas suffisante. C'est-à-dire qu'on les prévoit pour tenir 15 ans, si la mission doit durer 15 ans, pour aller vers une planète extérieure. Et parfois, il y a des morceaux qui tombent en panne et il faut se débrouiller avec des morceaux qui sont en panne. Il y a beaucoup de redondance pour être sûr que la machine fonctionne au bout de 15 ans.
Alors, on va se concentrer pour le moment sur l'idée qu'il y aura un équipage humain dans ce vaisseau, que ce sera des humains qu'on va envoyer là-bas.
Donc du coup, vous allez directement dans la mission la plus difficile possible, quoi.
Oui.
Ah mais c'est bien, il n'y a pas de raison.
Je dirais que une des problématiques qu'on abordera peut-être tout à l'heure, c'est le retour d'informations. Alors, si on se concentre sur l'humain, donc si on met des humains dans un vaisseau spatial, on va les envoyer pendant, donc on a vu minimum 40 ans, si on va aller sur Proxima du Centaure, et que l'on est très fort et qu'on arrive à 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est très fort, donc on va penser plutôt en termes de génération, finalement, en fait. C'est bien ça?
Alors, par rapport à ces thématiques de voyage dans l'espace, bon, il y a une chose qui me semble passionnante, c'est de réfléchir à la biosphère qu'on peut créer, à un ensemble, comment faire pour vivre en autarcie complète pendant aussi longtemps. Parce que certes, il y a des problèmes techniques de propulsion, mais très vite, on va avoir à gérer des ressources. On va avoir à penser en termes de production alimentaire, bien évidemment, de traitement des déchets, de recyclage. Alors ça, on commence on arrive à peu près à y penser. Mais on s'est rendu compte, il y a eu un projet qui s'appelait Biosphère 2, où on a essayé simplement pendant 2 ans de recycler, enfin de créer un environnement qui permettait de se nourrir, de respirer, d'avoir de l'oxygène, et en restant sur Terre, donc avec des conditions d'illumination qu'on connaissait, avec les phénomènes de photosynthèse qu'on connaissait, sans avoir des rayonnements autres à gérer, puisque si on quitte l'atmosphère terrestre, on va perdre le bouclier qui nous protège des rayonnements cosmiques. Il y a énormément de choses qui étaient facilitées, et même ce projet Biosphère 2, très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'a pas réussi à équilibrer la production d'oxygène par rapport à la consommation. Et donc, il a été arrêté avant la fin prévue. Néanmoins, ils ont quand même réussi à survivre plus d'un an en milieu fermé. Mais ce n'était pas concluant. Alors, pour partir 40 ans, on en est loin. Ça, oui, c'est uniquement pour des problèmes de gestion des ressources. Du coup, tous ces problèmes, enfin, à partir du moment où on commence à envisager de partir longtemps, on se rend compte à quel point les problèmes aujourd'hui dont on parle de développement durable, de responsabilité par rapport à la biodiversité sont importants. Donc finalement, ça nous ramène à des problématiques sur Terre.
Donc ça revient un petit peu au même, ce que disait M. Lehoucq, c'est-à-dire que il va nous falloir faire des avancées technologiques et des efforts, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau de la biologie, pour pouvoir envisager des voyages dans l'espace. Donc au niveau de la biosphère, dans l'espace, est-ce que vous avez des choses à dire?
Ok.
Oui, je ne veux pas mettre de côté les questions écologiques à long terme, qui sont très importantes, mais je pense qu'à un niveau plus proche, même voyager à 10% de la vitesse de la lumière, est-ce que ça ne pose pas des questions de radiation qui affecte l'environnement, disons, même voyager à une vitesse très modérée, il pourrait y avoir un changement dans les radiations qui pourrait altérer la structure moléculaire.
Il y a plusieurs problèmes qui se posent. On n'a plus la protection de l'atmosphère terrestre et la protection de la magnétosphère terrestre vis-à-vis des particules de grande énergie. On n'a plus la protection vis-à-vis aussi de la lumière de grande énergie venant du soleil, essentiellement le rayon ultraviolet, les rayons X, qui sont beaucoup moins intenses, mais qui sont non négligeables. Mais quand en plus de ça, en plus de ces soucis-là, on se déplace à grande vitesse dans ce rayonnement, alors l'impression qu'on a, comme on se dirige vers ce rayonnement, dans le référentiel du vaisseau, ils ont une beaucoup plus grande énergie. C'est ce que Peter Watt appelle blue shift, le décalage vers le bleu, le décalage vers les grandes énergies de la lumière et des particules cosmiques. Et non seulement il faut vivre dans l'environnement, c'est-à-dire être capable d'être autonome, de recycler ses déchets, de produire de la nourriture, enfin bref, d'avoir une biosphère complète qui se déplace, mais en plus, il faut se protéger des rayonnements de haute énergie qui sont dans l'espace et dont l'effet est accentué par le fait que l'on se déplace à grande vitesse dans ce rayonnement. Et donc, le problème, par exemple, d'un voyage aussi simple qu'à d'aller sur Mars, le problème le plus important, un des problèmes les plus importants, c'est de se protéger, de protéger les êtres humains qui seront dans le vaisseau martien des rayonnements de haute énergie en provenance du Soleil, par exemple, pendant la durée de 2 ans de leur voyage. Et le problème est encore bien plus accentué si on est dans l'espace profond à grande vitesse. Absolument.
Alors, je vous propose de partir toujours dans cette exploration, donc de dire que ces problèmes-là sont pris en compte et sont plus ou moins maîtrisés. Maintenant, je voudrais me tourner vers l'humain, parce que, en fait, dans ces vaisseaux, on a parlé de technologie, on a parlé un peu de biodiversité, on a parlé de biosphère, mais finalement, dans ce vaisseau, on va y mettre des humains. Des humains qui vont quand même donner leur vie, parce qu'ils vont passer leur vie dans ces vaisseaux 40 ans, 400 ans, c'est au-delà de l'espérance ou à la limite de l'espérance de vie d'un humain. Donc ce sont des gens qui vont donner leur vie à ce projet-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut penser des gens qui vont là-bas, qui partiraient? Quels sont les profils qu'il faudrait avoir? Est-ce qu'il y a déjà des études, des choses comme ça qui sont faites?
Des études, ça, je ne sais pas, mais on peut regarder dans l'histoire. Moi, ces histoires-là, ça me fait penser aux colons qui ont été, qui sont partis en Amérique. Alors, sauf que là-bas, il y avait encore possibilité de garder des liens. Puis en plus, il y avait déjà des humains là-bas. Il y avait déjà de la vie, mais bon, ils se sont comportés d'une manière comme s'ils n'existaient pas. Cela dit, on voit bien que la psychologie des gens qui sont partis était très particulière. Ça me fait penser à une chanson de la chanteuse Juliette, il faut du courage pour tout oublier, aller sans retour, comme ça. Oser partir, oser se couper complètement de tout ce qui nous, de tous nos liens. Et en plus, pour des voyages très longs, ça veut dire non seulement quitter à titre personnel, mais envisager d'avoir des enfants, envisager de construire quand même, tout en n'ayant plus aucun lien avec... avec nos racines. Donc c'est très particulier comme psychologie.
Enfin, plus aucun lien, il y a quand même les possibilités de communication, donc même si elles vont se raréfier, je pense, au fur et à mesure que les gens vont avancer.
Les gens d'un vaisseau qui partirait pour des dizaines d'années peuvent communiquer avec la Terre, mais ils vont communiquer comment? Avec de la lumière, des ondes radio, des lasers, ce que vous voulez, ce sera de la lumière. Et donc, à un moment donné, ils seront si loin que quand ils vont dire « bonjour les copains de la Terre », un an plus tard, ça arrive, quand ils seront une année-lumière, les gens disent, ah, ils nous ont dit bonjour, ouais, ça va bien. Ratata, ça vient un an après. Donc ils ont la réponse deux ans après, enfin même un peu plus, parce qu'entre-temps, eux se sont déplacés un petit peu. Donc là, on peut imaginer que toute discussion devient définitivement impossible. On peut imaginer plutôt un vaisseau qui envoie en continu un flux d'informations, la Terre qui envoie en continu un flux d'informations, et il n'y a plus de discussion possible, le décalage, le temps de transport de l'information devenant si important qu'on ne peut plus en tenir compte pour avoir une discussion soutenue. C'est vraiment, on capte les émissions radio de la Terre capte les émissions du vaisseau et on se débrouille avec ça.
Donc on va avoir une dissociation des deux civilisations. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure un petit peu, mais puisqu'on est en train de parler de la problématique, différentes problématiques, vous parliez tout à l'heure effectivement des gens qui vont avoir des enfants. Avoir des enfants, élever des enfants dans l'espace, la biologie dans l'espace.
Moi je ferais remarquer que jusqu'à présent, nous avons... Nous présumons que, enfin implicitement du moins, que l'équipage serait dans des conditions physiques normales dans tout le voyage. Et l'un des plus gros clichés, je dirais, de la science-fiction, c'est que, enfin, les questions de cryogénisation ou d'immobilisation longue durée des personnes, ça c'est un grand classique de la science-fiction, ça permettrait d'économiser peut-être beaucoup de choses, ça résoudrait des problèmes de radiation peut-être également. Mais le fait est que le métabolisme répare aussi notre ADN, par exemple. Il faudrait donc se réveiller de temps à autre pour relancer le métabolisme et pour se protéger peut-être. Mais il y a eu des études faites récemment sur le sulfide d'hydrogène. Sulfate d'hydrogène. Et apparemment, cela a permis d'arrêter le métabolisme chez des mammifères, apparemment, à hauteur de 90%, sans pour autant d'avoir d'effet néfaste sur l'organisme tout entier. Et ça bouche finalement certains mécanismes du métabolisme. Et donc le métabolisme s'arrête et apparemment on en revient, on s'en sort. Donc après ça dépend de l'échelle de temps bien sûr de laquelle on parle, mais ça me frappe parce que le fait qu'on fasse ce genre de progrès maintenant, ça pourra peut-être permettre d'être une alternative à un ce que je pourrais appeler un vaisseau multigénérationnel avec des gens qui respirent et qui doivent faire leurs besoins pendant des années et des années. Pourquoi pas se faire congeler et puis se faire dégeler à la fin du voyage?
si on prend ce mode cryogénisation, effectivement, donc ça veut dire que les gens qui vont arriver sur la planète, on peut espérer une planète, donc vont être les mêmes, voire même en même condition physique, que ceux qui sont partis. Si on prend le cas d'un vaisseau générationnel, d'un vaisseau ruche, on peut envisager, effectivement, il y aura toujours des gens aussi qui vont arriver sur cette planète. Mais on pourrait revenir à ce moment-là sur la notion de civilisation, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont arriver sur une planète où la moindre communication avec la planète d'origine va se chiffrer, pareil, en années de transfert.
Ils seront coupés, bien sûr. D'abord, on peut se demander, est-ce que les gens qui ont traversé leur site, si c'est un équipage qui vit dans le vaisseau pendant les dizaines d'années, on peut se demander, les gens qui arriveront ne seront pas les gens qui sont partis, ça sera des descendants. Est-ce qu'ils ont envie de descendre, après tout? C'est une question qu'on peut se poser. Ils auraient tout simplement dit, bah non, le vaisseau, il a bien marché 300 ans, pourquoi descendre cette planète? Ça a l'air dangereux, c'est pas clair. Bon, il faudrait rester dans le vaisseau. Si les gens sont, d'une façon ou d'une autre, en animation suspendue, bon, ce sera les mêmes personnes qui arrivent que les personnes qui partent. Il faut qu'ils se réveillent, que ça se passe bien. On voit dans Avatar, c'est le cas idéal, dans le film Avatar. Ils sont en animation suspendue et le vaisseau met pour aller sur Proxima du Centaure, pas pour Proxima, sur Alpha du Centaure, vers Alpha du Centaure, qui est un tout petit peu plus loin que Proxima du Centaure. Il met un peu moins de 6 ans, donc ça veut dire que c'est un vaisseau qui a été 70, j'avais calculé ça, plus 70% de la vitesse de la lumière. Là, c'est vraiment un bon vaisseau, quoi, qui a bien poussé. Donc là, effectivement, ils vont se réveiller, il faudrait qu'ils descendent sur cette planète, bon, pour la coloniser éventuellement. Le problème d'une vie indigène sur la planète se pose. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette vie si elle existe, même si une vie microbienne, est-ce qu'on va glorieusement l'écraser ou est-ce qu'on va se débrouiller pour pas marcher dessus? C'est un problème qui se pose. Et les communications avec la planète de départ, avec la Terre en l'occurrence, évidemment, vont être telles qu'ils vont être en autonomie complète de décision, probablement. Hein. Donc c'est un peu comme ça se passait d'ailleurs pendant notamment la colonisation de l'Afrique par les Européens. Les gouverneurs, qui étaient aussi les commandants des armées glorieusement colonisatrices, avaient une très très large marge de manœuvre vu le temps de transfert d'informations entre l'Afrique et l'Europe. Ils avaient une très large manœuvre, une très large gamme de manœuvres, et ils pouvaient décider de faire absolument ce qu'ils voulaient. Donc le temps de communication va devenir un point extrêmement important quant à l'autonomie de décision des humains qui sont envoyés sur ces planètes.
Donc effectivement, on voit bien qu'on se rapproche vraiment de la problématique du Far West en particulier, puisque vous disiez tout à l'heure, déjà sur la psychologie des gens qui vont partir, qui sont capables de tout abandonner, de se lancer dans une expérience qui est l'expérience de leur vie, voire même l'expérience à laquelle ils dédient leurs enfants. Puisque que les enfants naissent dans le vaisseau ou qu'ils naissent en arrivant sur la planète, de toute manière, ils n'auront pas le choix, ces enfants-là, ils seront partis de l'expérience. Et donc, on se retrouve aussi à la problématique de, comme on disait, éventuellement la vie indigène, mais de toute manière, arriver dans des endroits qui sont différents de ce que l'on connaît et qui fait que l'on n'a plus aucune communication avec ce que l'on avait avant.
C'est vrai que dès qu'on commence à penser en termes d'arriver dans un endroit inconnu et sans doute avoir des rencontres avec un autre environnement et peut-être avec d'autres formes de vie, déjà reconnaître qu'est-ce que la vie, parce qu'on a une certaine vision de ce que peut être la conscience, de ce que peut être la communication avec l'environnement, de ce que peut être la communication avec les uns et les autres. Mais on voit bien où le problème des colons, ça a été de ne pas reconnaître chez l'autre la même part d'humanité, la même part de vie, de conscience. Alors, comment envoyer des gens qui seraient conscients, qui seraient prêts à accepter l'autre? Parce qu'on voit bien, c'est souvent ça, on arrive en conquérant, on n'arrive pas en récepteur, on arrive en émetteur. Au niveau de la conquête, alors je vais peut-être faire un peu maintenant un peu de féminisme dans les explorateurs, dans les personnes qui ont été à la rencontre d'autres civilisations. Je pense à Ida Pfeiffer, qui en 1850, c'était une femme autrichienne qui a toujours aimé les voyages, et à 40 ans son mari était décédé, elle a décidé de partir faire des tours du monde. Et elle a été dans d'autres, elle a été rencontrée des villages africains, elle a été rencontrée des gens en Amérique du Sud, la reine de Madagascar, elle a fait des récits de voyage. Et là, elle a observé beaucoup de choses. Elle a accepté, elle a regardé, elle a ramené des récits de voyage très intéressants, dont Jules Verne s'est inspiré sans jamais la citer. Tout ça pour dire que l'état d'esprit dans lequel elle était, peut-être parce que c'était une femme, était différent et qu'elle était en mesure de recevoir aussi des informations. Elle a fait des remarques sur le mode de fonctionnement des villages, qui faisait quoi, comment ça se passait. Elle n'est pas arrivée avec l'idée... On est les plus forts, on arrive pour civiliser ces gens sans culture. Donc il y a un état d'esprit différent qui permettait beaucoup plus d'établir un dialogue et un contact.
Alors les femmes dans les voyages spatiaux, c'est justement c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire que si l'on cherche à s'implanter, si on cherche à aller sur une planète pour installer une base de vie durable, la femme reste quelque chose de très particulier, parce que c'est un être humain, c'est certain, non, c'est un être humain comme les autres, mais en plus de cela, elle est quand même le facteur de transmission de la vie. Donc, est-ce que c'est quelque chose de particulier, la femme, en tant que transmettrice de la vie ?
Si on parle d'un héritage, totalement différent sur les planètes, donc il faut pas voir des questions sur les hommes et les femmes d'une même espèce. Je crois que c'est une question. Là, si on a contact avec d'autres civilisations, d'autres planètes, on va oublier les différences que nous avons entre nous. Une des seules choses intelligentes qu'a dit Ronald Reagan, il a dit à Gorbatchev, il a dit, si on était envahi par les êtres de Mars, on oublierait nos problèmes idéologiques. Et au Canada, il y avait un journal qui disait, Reagan assure son aide à Gorbatchev dans la guerre contre les aliens. Bon, c'est un peu débile, mais il y a quand même quelque chose là. Et je pense... Bon, il a, sans parler de ses précédents en termes de colonisation, mais je pense que quand on arrive sur une autre planète, notre situation sera beaucoup plus précaire. On ne va pas pouvoir envoyer des soldats et tout ça si les gens ils sont hostiles. Non, on va être là, on va être soumis. Si on rencontre une planète où il y a une population intelligente, notre survie dépendra d'eux. Et j'espère qu'on ne sera pas assez arrogant et stupide pour dire je pense que notre survie en fait dépendra de la sagesse locale dans ces cas-là. Et j'espère que si on a la capacité technologique pour voyager à plusieurs années-lumière, je pense que on va pas dire on est vraiment la meilleure chose dans l'univers. Mais bon, quand on voit l'histoire humaine, c'est pas très probant, hein, donc voilà.
La communication en retour, c'est-à-dire que les humains, si on envoie un vaisseau comme ça vers une autre planète, qui s'installe, qui crée une civilisation, un embryon de civilisation, disons-le, un jour ou l'autre, il va vouloir revenir sur la planète Terre, nous recontacter au moins.
Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Mais ça peut être un point de départ. Il y a une idée, il y a une fameuse question qui a été posée par Enrico Fermi, un physicien, qui se demandait, quand on parlait des extraterrestres, et qui demandait en anglais « Where are they ?» Où est-ce qu'ils sont ? Où sont-ils, ces extraterrestres ? Avec un raisonnement qu'il a un peu détaillé, puis ensuite d'autres réponses ont été apportées à cette question, où sont les extraterrestres ? C'est de se dire, si vous êtes une civilisation qui a la capacité de se déplacer d'étoile en étoile, même à une vitesse assez lente, même à un centième de la vitesse de la lumière, si vous êtes capable de faire ça, que vous avez les moyens d'envoyer des équipages en animation suspendue, des équipages vivants pendant plusieurs générations, bref, si vous êtes capable d'aller d'une étoile à une autre, vous arrivez sur une planète autour de cette étoile, éventuellement vous la colonisez, vous vous développez, donc vous arrivez, faisons un cas simple où il n'y a pas de vie sur place, comme ça, ça résout tous les problèmes éthiques de savoir qu'est-ce que vous, comment vous arrangez avec cette vie-là. Vous arrivez sur cette planète qui est habitable pour vous, vous vous développez, vous arrivez avec quelques centaines de personnes, les lois de la démographie étant ce qu'elles sont, vous vous reproduisez à une vitesse assez élevée, en quelques centaines, peut-être quelques milliers d'années tout au plus, vous avez couvert la surface de la planète. Vous avez donc à nouveau une civilisation sur cette nouvelle planète qui est capable, qui a les moyens à nouveau d'envoyer un nouveau vaisseau. Donc vous avez tout simplement fait de la Terre envoyer un ou deux vaisseaux. Vous n'avez pas plus de moyens que ça. Sur ces planètes, vous attendez quelques centaines, peut-être quelques milliers d'années. Vous avez les nouveaux moyens d'envoyer deux vaisseaux qui chacun vont faire deux nouvelles planètes, qui vont au bout de quelques milliers en envoyer deux autres. Et de fil en aiguille, les puissances de 2 étant ce qu'elles sont, 2 × 2 × 2 × 2, mais avec une échelle de temps de l'ordre de 1000 ans entre chaque expédition de vaisseau, vous pouvez vous convaincre que vous allez explorer toutes les planètes habitables de notre galaxie qui contient 100 milliards d'étoiles, peut-être, mettons, 5 à 10 planètes par étoile, donc plusieurs centaines de milliards de planètes potentielles. Vous les explorez toutes en une échelle de temps qui n'est finalement pas si longue, qui se chiffre en 50 à 100 millions d'années. Il faut savoir que l'âge de la Terre, c'est 4,6 milliards d'années. L'âge de notre galaxie, c'est estimé à une dizaine de milliards d'années. Ça veut dire qu'on a une échelle de temps qui est pour nous humains très longue, mettons 50 millions d'années. Vous allez pouvoir explorer toutes les planètes de la galaxie, si tant est que vous avez les capacités techniques d'aller d'une étoile à une autre. Donc la question de Fermi revient à dire, où sont ces extraterrestres? S'ils avaient la capacité, s'ils existent et qu'ils ont la capacité de voyager dans le milieu, dans l'espace interstellaire, même à une vitesse plutôt modeste, mais avec des échelles de temps finalement assez longues, en quelques dizaines de millions d'années, ils devraient avoir rempli tout le volume de la galaxie et exploré toutes les planètes. Donc où sont-ils? Alors c'est peut-être moi, j'enlève mon masque et c'est moi qui suis ici. Où sont-ils, ces extraterrestres? Donc si l'on est capable d'explorer l'espace interstellaire, on devrait en quelques... l'humanité ou d'autres êtres vivants éventuellement... devrait avoir rempli, ou une fraction, peut-être pas l'ensemble, en tout cas une fraction appréciable de la galaxie, de d'autres galaxies.
Moi, j'ai toujours été un peu sceptique, en fait, du paradoxe de Fermi. Parce que c'est quelque chose qui vient de notre logique maintenant. Et les choses changent. À une époque, on envoyait des signaux radio et télévision en espace. Et là, on commence à arrêter ça. Là, on est de plus en plus silencieux. Et donc maintenant, on utilise des satellites et des choses comme ça. Donc les fuites qu'on avait avant n'existent pas. Donc on disait, bon, on va écouter les fuites de tout le monde, des autres. C'est comme ça qu'on va chercher. Mais même notre civilisation maintenant est plus introvertie. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus. Et je pense que, d'un point de vue historique, où sont les extraterrestres? On ne sait pas, donc ils n'existent pas. C'est un peu comme les fourmis qui vont sur le trottoir dans la ville et qui disent, bon, on est allé voir, on a cherché des traces de phéromones et on ne voit pas de traces de phéromones. Sur cette structure bizarre avec les autres choses qui font du bruit, donc il n'y a pas d'autre vie. On ne partage pas l'univers avec personne, quoi, avec rien d'autre. Donc les choses sont tellement énormes pour les fourmis, en fait, que les fourmis ne peuvent pas reconnaître ces symptômes. Et je me demande si Fermi n'était pas un peu présomptueux. C'est une bonne question à poser. C'est une très bonne question à poser. Mais dire que c'est un paradoxe, je pense que là, on va trop loin. Je crois que c'est une question. En fait, on n'a pas assez de données. Non.
Et pour lesquelles on a apporté beaucoup de réponses qui sont toujours anthropocentriques. On s'est dit, ah ben, si on n'a pas vu l'extraterrestre, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous discuter avec nous, ils nous considèrent comme trop dangereux ou trop jeunes ou quoi. Donc, par exemple, ça, le zoo, l'hypothèse du zoo, il se peut aussi qu'il n'y en ait pas. Ça, c'est une possibilité, mais qu'il y ait des extraterrestres ou qu'il n'y en ait pas, en fait, les deux réponses sont éminemment stupéfiantes. C'est-à-dire, s'il y en a d'autres, il y a d'autres êtres vivants dans la galaxie, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant. S'il n'y en a pas d'autres, si nous sommes la seule espèce vivante, éventuellement intelligente dans la galaxie, c'est tout aussi stupéfiant. Donc, toutes les réponses apportées sont à chaque fois anthropocentriques, et le seul moyen de savoir, ça serait d'y aller, mais en fait, on constate, enfin, la chose la plus probable qui va se passer, c'est qu'on aura, par les moyens d'observation de l'astrophysique moderne, les grands télescopes qui sont en développement, il y a actuellement un télescope qui est en projet, un télescope de 43 mètres de diamètre, qui s'appelle le European Extremely Large Telescope, qui va être construit au Chili. Il y a les Américains ont aussi des projets de très grands télescopes, le 30 Meter Telescope, qui va faire 30 mètres de diamètre, d'observer directement, non pas indirectement par les effets qu'elles ont sur le mouvement de leur étoile, mais d'observer directement les exoplanètes que nous avons détectées actuellement, de voir la lumière qui nous en vient, de faire la spectroscopie de cette lumière et éventuellement de pouvoir avoir des indices d'une éventuelle vie sur ces planètes par la spectroscopie de l'atmosphère, par la composition qu'on va mesurer de cette atmosphère. Il est assez probable que d'ici les 20 prochaines années, on ait des conclusions, disons, plus fermes que maintenant, sans aucun doute, mais peut-être fermes, sur la possibilité d'une vie sur une planète extérieure au système solaire, alors qu'on est dans 20 ans, on sera toujours tout aussi incapable d'envoyer la moindre sonde, je ne parle même pas d'envoyer des humains, d'envoyer la moindre sonde, même robotisée, même petite, vers ces planètes-là.
Alors, là, ces remarques, moi, me font penser à notre appréhension de qu'est-ce qui existe. Parce que c'est assez récent qu'on s'intéresse à toutes sortes de radiations électromagnétiques. Quand on dit on reçoit de la lumière des étoiles, quand on voit les images qu'on tire aujourd'hui des observations, beaucoup sont dans du domaine qui n'est pas visible. Donc on a complètement changé notre façon de penser le réel en s'intéressant à des longueurs d'onde qui n'étaient pas accessibles auparavant, dont on n'avait aucune information. Ce qui fait que, aujourd'hui, on s'intéresse aux ondes électromagnétiques, aux photons, c'est toutes les informations qui nous viennent, également aux neutrinos, ce sont les informations qui nous viennent de l'extérieur. Mais ces informations sont toutes récentes. Pendant longtemps, on considérait qu'il n'y avait que la lumière visible qui nous venait des étoiles. Donc, on se concentrait sur une toute petite partie du réel et on considérait qu'on avait tout le réel. Aujourd'hui, on a une gamme plus grande. Est-ce qu'on accède à tout ce qui nous est accessible comme information ? On ne sait pas.
C'est le problème de l'astronomie et de l'astrophysique. Ce n'est pas une science d'expérimentation. Ce n'est pas de la physique ou de la chimie de laboratoire ou de la biologie de laboratoire. On a en gros le sujet d'expérience ou le sujet de questionnement est sous la main, d'une certaine façon. L'astrophysique, il n'est pas sous la main, il est devant nos yeux et on est limité par nos observations. L'astrophysique est une science d'observation et pas une science d'expérimentation. Et en ce sens, ce que l'on ne voit pas, au sens les choses avec lesquelles on n'interagit pas, alors en général par la lumière, n'existent pas. Autrement dit, on ne peut pas en parler. Donc, le problème de la vie extraterrestre, même si on se dit, oui, c'est assez probable, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles la vie extraterrestre existe, il y a aussi plein de raisons pour lesquelles elle n'existerait pas après tout. Et tant qu'on n'en a pas détecté directement la présence, par interaction directe, entre guillemets, et ça sera probablement par la lumière, qui est le moyen de transport d'informations le plus efficace et le plus rapide, on n'aura absolument pas de... On n'aura pas tranché la question directement. Et on la tranchera probablement par l'observation d'abord, avant de la trancher par l'expérimentation directe de l'envoi d'une sonde robotisée ou d'humains dans un vaisseau spatial qui irait voir in situ s'il y a effectivement de la vie sur une planète en dehors du système solaire.
Pour résumer un peu au niveau de l'astrophysique, on pourrait dire on avait les réponses, mais on n'avait toujours pas les questions ni les moyens de les poser.
On n'avait pas les réponses.
Mais si, on recevait les informations, mais on ne savait pas les interpréter.
Si dans cette salle, quelqu'un me parle télépathiquement, comme je suis absolument insensible, moi, à la télépathie, je ne sais pas que cette personne me parle. Donc, de ce point de vue-là, j'ignore que quelqu'un me parle télépathiquement. C'est aussi simple que ça, la question, elle est aussi simple que ça.
Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, nous sommes ouverts, les personnes sont là. S'il y a des gens qui veulent nous parler du voyage dans l'espace, qui ont des questions à poser sur les exoplanètes.
Bonjour, j'ai une question en particulier pour Monsieur Roland Lehoucq. Quelles sont les ressources lors d'un voyage interplanétaire, par exemple avec dans le milieu intersidéral et en termes aussi d'énergie, avec toutes les radiations pendant ce voyage qui seraient présentes?
Alors les ressources, à quel niveau? Pour la propulsion du vaisseau, pour nourrir toutes les ressources possibles?
Voilà, toutes les ressources possibles.
Rien, enfin rien. Extrêmement peu de choses, parce que le milieu interstellaire, même le milieu interplanétaire, c'est essentiellement vide de matière. Donc on risque pas d'en avoir assez à récupérer pour manger, entre guillemets. Si on veut manger dans le vaisseau, il faut amener de quoi manger pendant tout le voyage. On pourrait imaginer récupérer une partie de cette matière pour propulser le vaisseau. C'est-à-dire ne pas partir avec tout le carburant nécessaire pour la propulsion. Si on a un vaisseau qui a propulsion, disons, classique ou même non classique, qui utiliserait la fusion, par exemple, qu'on ne sait toujours pas faire sur Terre dans le milieu contrôlé pour produire de l'énergie. Donc la mettre dans l'espace pour propulser un vaisseau, on en est encore bien loin. On pourrait imaginer récupérer des particules, des atomes d'hydrogène du milieu interstellaire pour s'en servir comme carburant pour un réacteur à fusion. Sauf qu'encore une fois, le milieu interstellaire est extrêmement peu dense. On trouve la densité de particules, c'est de l'ordre de quelques milliers à quelques dizaines de milliers, quelques milliers à quelques dizaines de milliers, donc d'atomes par centimètre cube. Ça paraît beaucoup quand on dit 10 000. Il faut savoir que dans l'air de cette pièce, c'est pas 10 000 particules par centimètre cube qu'on a, c'est des milliards de particules par centimètre cube qu'on a juste dans l'air de cette pièce. Donc on est vraiment extrêmement peu dense dans le milieu interstellaire. Récupérer ces particules, la vitesse du vaisseau, ça permet d'en récupérer beaucoup. Il faudra avoir une sorte de grand filet. Alors c'est pas un filet avec des mailles matérielles, on pourrait imaginer un filet magnétique, un champ magnétique créé par le vaisseau qui pourrait éventuellement collecter ces particules. Bon, ça pourrait aider un peu à la propulsion, c'est pas très efficace. Donc essentiellement, il faudrait quand même partir avec l'essentiel des ressources nécessaires au voyage, les emporter dans le vaisseau, que ce soit des ressources alimentaires, des ressources de vie de l'équipage ou des ressources énergétiques, il faudrait les avoir sous la main essentiellement. On peut imaginer une dernière chose pour les ressources énergétiques, qui est une sorte de laser qui éclaire le vaisseau en permanence, de sources d'énergie externes qui éclairent le vaisseau en permanence, mais la distance entre le vaisseau et cette source augmentant, cette énergie va se diluer avec la distance, et donc bon, on en aura de moins en moins par unité de surface avec la distance du vaisseau augmentant au fil du voyage. Partir dans l'espace interstellaire, c'est vraiment partir en autonomie complète pendant une très grande partie pendant l'essentiel du voyage, pendant une très grande durée.
Alors, moi je pensais aussi à une chose, on parle des ressources énergétiques, on parle éventuellement de créer un système de biosphère autonome qui permettrait d'assurer l'alimentation. Mais on oublie que la plus grande ressource énergétique sur Terre, c'est la lumière solaire. Donc si on s'en éloigne, on perd énormément d'intensité de cette source d'énergie fantastique. Et donc même la biosphère, enfin le système de production des plantes pour se nourrir qu'on pourrait imaginer, va se voir perturbé par la perte d'énergie lumineuse. Et ça, on ne saurait pas comment le compenser.
Il faut des lampes, il faut beaucoup de lampes. Et donc il faut payer l'énergie des lampes. Voilà, donc c'est le milieu interstellaire, c'est l'espace, le vide interstellaire, c'est un milieu qui est extrêmement hostile à l'humanité, quoi. Enfin, en tout cas, à la vie terrestre et à l'humanité en particulier.
C'est probablement le fantasy la plus fantasque, en fait, et la matière programmable. Je pense que l'idée Ramscoop, en fait, on n'en parle plus parce que c'est un frein. La résistance qu'on rencontre quand on ramasse les particules. En fait, c'est plus important. Le frein est plus important que l'énergie qu'on récupérerait pour donner une poussée. Donc, et la téléportation, en fait, c'est pas dégrader la matière ici, les rassembler là. Non, on prend les tâches quantiques, les caractéristiques de la matière là, et on les emprunte sur quelque chose qui existe déjà dans un autre endroit. Là, je ne suis pas physicien, donc là, vraiment, c'est, je parle de mes fesses, là, mais bon. Mais là, on pourrait peut-être prendre de l'hydrogène et on met des tâches quantiques, d'autres choses, peut-être de l'alimentation. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait, avec peut-être une alchimie aux technologies, transformer une forme de matière en une autre forme plus utile? Ou est-ce que c'est...
Cet effet de téléportation quantique dont vous parlez, pour l'instant, on est capable de reproduire l'état d'un seul atome copié d'un autre atome qui est à un autre endroit. On peut copier l'état d'un atome sur un autre atome, un atome. Et c'est déjà un effort technique très très important. Donc si on devait copier par téléportation quantique des choses plus importantes, évidemment la difficulté serait multipliée par la quantité de matière que l'on voudrait copier. Donc on n'est pas prêt d'utiliser ça encore comme moyen de transporter de l'information. La téléportation quantique, c'est d'abord un moyen de communication. On n'est pas prêt d'utiliser pour communiquer entre un vaisseau et la Terre. Ce vaisseau utilisant cette information transportée via la téléportation quantique pour tout ce qui pourrait être nécessaire pour la survie, la propulsion du vaisseau. Donc ça reste une idée fascinante et qui reste très spéculatif, je pense, pour l'instant.
Bien, je vous remercie beaucoup de cette discussion. Vous voyez, on est parti très loin, on est parti jusqu'à la téléportation. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je vais laisser la place pour les prochaines conférences. Voilà, merci beaucoup, au revoir. D'accord. Pour votre information, M. Watts et M. Luhuk vont être en signature sur la librairie. Donc si vous avez envie de discuter avec eux, vous pouvez très bien le faire. Voilà.